Bonjour à tous. Ce matin, nous continuons notre étude dans les psaumes. Et je vais vous proposer donc d'étudier ensemble, de réfléchir ensemble sur le psaume 13. C'est un psaume qui est assez court. Et je le mettrai en parallèle avec deux passages dans le Nouveau Testament. Donc c'est un psaume de David. Au chef de cœur, psaume de David. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, Éternel, mon Dieu, réponds-moi. Viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. Sinon, mon ennemi dira qu'il a gagné, mes oppresseurs se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel. Tu m'as comblé de tes bienfaits. Un psaume qui parle des soucis, des chagrins de la vie, de la façon dont David les vit au moment où il écrit ce psaume. Un psaume aussi qui parle de la façon dont David va réagir face à ses soucis, la façon dont il va exprimer sa confiance en Dieu. En étudiant ce psaume, je me suis dit que je devais le faire avec humilité. Humilité parce que chacun d'entre nous ici, on a eu des moments de soucis, des moments de chagrin qu'on a traversé comme on a pu. Et ce matin, je veux pas me présenter devant vous en donneur de leçons, en vous expliquant les bonnes façons de traverser les épreuves, mais je veux me mettre comme vous à l'écoute de ce que le Seigneur a à me dire. Je veux être encouragé avec vous par sa parole et écouter la façon dont Dieu va m'encourager à traverser les épreuves qui peuvent être devant moi. Alors je voulais en parallèle à ce texte, je vais lire deux passages qu'on connaît bien, et quand on réfléchit aux soucis, en fait, c'est peut-être ces passages-là qui nous viennent en premier. Le premier, ça se trouve dans l'évangile de Luc. Je lis donc Luc chapitre 12 verset alors à partir du verset 22, je vais même à partir du verset 25, c'est un passage qui fait partie du sermon sur la montagne, en tout cas là, enfin dans Luc c'est peut-être pas tout à fait ça, mais donc je lis à partir du verset 25. Qui de vous peut à force d'inquiétude prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Donc ensuite, Jésus va parler des lys et de la façon dont Dieu les habille mieux que Salomon. Et il continue au verset 29. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire. Ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc là, parole de Jésus. Un peu plus loin, donc je lis dans Philippiens, au chapitre 4, et à partir du verset 6. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Donc là, un encouragement de la part de Paul. Donc toujours autour du thème des, euh, autour du thème des soucis. Et en réfléchissant donc un petit peu à ce que pouvaient représenter ces soucis dans ma vie, eh bien, je me suis dit que probablement les soucis, c'était d'abord les moments où je me retrouve impuissant à contrôler ce qui m'arrive ou ce qui va m'arriver, et où je suis confronté à l'incertitude de ce qui est devant moi. Les chagrins, eux, c'est le sentiment de perte, hein, le sentiment où quelque chose nous a été arraché, et cet arrachement, eh bien, provoque une souffrance à laquelle nous devons faire face. Et la première chose qui m'a marqué en commençant ce psaume, quand David dit m'oublieras-tu sans cesse, jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Et quand on lit ça, on se dit mais non. On a envie de dire à David, mais non, de quoi tu parles? Tu sais bien que le Seigneur n'est pas loin de toi. Mais la première chose que font justement les soucis et les chagrins, eh bien, c'est de déformer la réalité. On sait que nos sentiments modifient notre perception de ce qu'il y a autour de nous. Une émotion intense peut nous faire transformer la façon dont on perçoit ce qui est autour de nous. Un ami me disait il y a pas très longtemps qu'il avait vécu un moment de stress très fort. Il était persuadé d'avoir vu quelqu'un à ce moment-là. Et quand il en a parlé après avec les autres gens autour de lui, il s'est rendu compte que cette personne-là était pas du tout là. C'était pas du tout cette personne-là qui était là. Or lui, dans sa mémoire, il était persuadé qu'elle était là. Donc cette émotion lui a simplement fait voir quelque chose qui n'existait pas. Et les soucis et les chagrins font aussi ça dans notre vie. Notre perception de la présence de Dieu s'altère, et nous avons le sentiment que Dieu est absent, voire que Dieu nous a abandonnés. Et cette absence peut se traduire de plusieurs façons, et une de ces façons, on le retrouve dans d'autres personnes que David, parce que David va réagir d'une façon particulière. Mais par exemple, on peut voir la façon dont Saül va réagir face au stress, face à la pression qu'il ressentait de sa position de roi. Donc Saül qui est l'anti-David, d'accord. Saül, lui, face à la pression, Face à l'incertitude, il attendait. Donc c'est un passage qu'on trouve dans Samuel, où on voit que justement Saül attend Samuel pour accomplir un sacrifice devant Dieu, et Samuel tarde, et Saül va décider de prendre la place de Samuel et d'accomplir le sacrifice lui-même en désobéissant à Dieu. Saül a été un roi qui a été guidé toute sa vie par la peur. Et effectivement, les soucis, l'incapacité à contrôler ce qu'il y a autour de nous, eh bien, ça peut produire ça. Ça peut produire de la peur. De la peur, de la panique. Et cette peur, eh bien, Saül, par exemple, l'a traduit par le péché. Il a désobéi à Dieu. Il s'est coupé de la bénédiction, de Dieu. Le chagrin, en pensant au chagrin, je pense forcément à Job. Et là aussi, on voit deux façons dans ce livre de réagir face au chagrin. On connaît la foi de Job et la façon dont il a réagi, mais vous vous rappelez aussi probablement la façon dont sa femme, elle, réagit au chagrin. Comment est-ce qu'elle va dire à Job, eh bien, maudit Dieu, et puis meurt. La colère, le chagrin, quand il prend toute la place, peut produire la colère et la révolte. La révolte contre Dieu. Et dans ces deux chemins, la colère et la peur, eh bien, les textes nous montrent que c'est la mort qui est au bout. La peur et la colère peuvent soit nous paralyser, nous empêcher d'agir, ou bien au contraire nous pousser sur un chemin qui est le mauvais chemin, un chemin sans Dieu. Et David, quand il nous parle de cet ennemi qui aura le dessus, je pense que dans le contexte de David, cet ennemi avait sûrement une identité, un visage propre, mais nous pouvons aussi le lire comme l'ennemi de nos âmes, qui lui se réjouit des moments où nous nous détournons de Dieu, où nous réagissons par la peur et la colère à l'épreuve que nous rencontrons. David, lui, donc, ne réagit pas de cette façon-là. Et dans son sentiment d'être abandonné par Dieu, David va faire ce premier pas où, eh bien, il va appeler à l'aide. Il va appeler à l'aide et il va interpeller Dieu en lui disant « Regarde, éternel mon Dieu, réponds-moi. Regarde et réponds-moi. » Là aussi, en lisant ce verset, je me suis dit « Mais là aussi, David, tu te trompes. C'est pas à Dieu qu'il faut demander de regarder et de répondre. C'est plutôt à toi d'ouvrir les yeux et d'écouter. » Malgré tout, cette première démarche où David va demander à Dieu de revenir dans la situation dans laquelle il se trouve, eh bien, c'est ce premier pas qui va permettre finalement à Dieu de le réparer. Et c'est ce que David dit juste ensuite. Viens réparer mes forces. Viens me réparer, viens changer. Viens, voilà, oui. Réparer ce qui a été cassé. Réparer la relation avec toi qui a été coupée. Viens me donner ce nouveau regard sur ce qui m'entoure, sur ce que je traverse. Vous connaissez, vous savez que les alcooliques anonymes se réunissent ici une fois par semaine. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la prière que les AA font, je pense, à chacune de leurs réunions. Et c'est une prière que moi je trouve assez, qui a aidé, je pense, des milliers, peut-être des millions de personnes. Alors je vais la formuler peut-être pas de la façon tout à fait exacte, mais en gros ça commence par en disant, donc en parlant à Dieu, en lui disant Seigneur, aide-moi à porter ce que je peux porter. Ensuite ça dit Seigneur, aide-moi à laisser ce que je peux pas porter. Et ça termine en disant, Seigneur, aide-moi à voir la différence, à distinguer ce qui est de ma responsabilité, de ce que je dois te laisser. Et en effet, face aux soucis, face aux préoccupations, aux inquiétudes, eh bien, il y a effectivement des choses que nous devons accepter de porter et d'autres que nous devons accepter de laisser. Et en disant ça, je me rends bien compte que c'est pas facile. Que dans ma vie, eh bien, il y a des choses que j'aurais dû porter, que j'ai pas fait, d'autres que j'aurais dû laisser et dont je me suis chargé. Ce serait trop facile de vous dire qu'il y a une recette miracle pour distinguer les deux. Et je dirais même que ce serait une insulte à Dieu, parce que justement, c'est dans cette difficulté que notre relation à Dieu se fortifie. C'est parce que il n'y a pas de réponse facile, et que la seule réponse finalement, c'est la présence de Dieu. La seule réponse, c'est de dire, Seigneur, viens dans ma situation et montre-moi. Montre-moi, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, aide-moi à entendre, et montre-moi ce qui est de ma responsabilité et de ce que je dois te laisser. Dans l'exhortation de Philippiens, donc Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, remettez vos inquiétudes à Dieu. En toute chose. Et en préparant cette exhortation, je me suis demandé si effectivement ce toute chose n'avait pas quelque chose à me dire. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses, plein de soucis, alors pas forcément des grands soucis, mais plein de préoccupations. Plein de choses dont que je devais décider, de choses que j'avais à faire, où finalement j'avais pas mis Dieu dans ces petites choses. Peut-être parce que implicitement dans ma tête, je m'étais dit que ça c'était des choses que j'avais à faire dont Dieu se préoccupait pas. Et ce texte m'a rappelé qu'il n'y a pas de petites choses. Il n'y a pas de choses dans desquelles Dieu est absent. Alors j'ai repassé dans ma tête sur mon téléphone, j'ai un truc qui s'appelle une to-do list avec des. Je rentre les trucs que j'ai à faire parce que je sais que j'ai pas envie de les faire, et donc j'ai tendance à reporter jusqu'au calendrier. Alors je rentre les petits trucs comme ça. Et là, j'ai fait un peu la même chose de tous mes soucis, toutes mes préoccupations. Tout ce que je gardais finalement pour moi et que j'essayais de régler avec ma propre intelligence et ma propre force. Et puis j'ai fait cet effort-là et je les ai passées les unes après les autres et j'ai dit, ben voilà, Seigneur, ça, je te le remets. J'ai ça à faire. Je sais pas forcément comment le faire. Viens m'aider. Je te remets cette situation. Et j'ai passé en revue toutes mes petites choses. Et je les ai remis entre les mains de Dieu. Dans le texte de Luc, Jésus nous encourage à ne pas nous préoccuper, à ne pas être submergé par l'inquiétude du manger et du boire, mais de remettre ça entre les mains de Dieu, parce que Dieu sait que nous en avons besoin. Et il nous dit, faites du règne de Dieu, du royaume de Dieu, votre préoccupation première. Et c'est vrai qu'en ce texte-là, moi, il m'a toujours mis un peu en porte-à-faux. Parce que, essentiellement, dans ma semaine, je me préoccupe de mon travail, de m'occuper de mes enfants, de toutes les choses que j'ai à faire et que je dois faire, et ça occupe une grande partie de mon temps de cerveau disponible. Et ce texte me dit, oui, mais fais du royaume de Dieu ta préoccupation première. Et donc là, quelque part, il y avait comme une sorte de schizophrénie, quoi. C'est-à-dire que je sais quelque chose d'un côté, puis en même temps je fais autre chose de l'autre côté, en me disant, bon, je vais faire comme si les deux, un coup je suis d'un côté, un coup je suis de l'autre, et les deux se rencontrent pas. Cette réflexion, ces textes m'ont amené à me dire que c'était probablement pas la bonne façon d'appréhender cette exhortation du Seigneur à ce que le royaume de Dieu soit ma préoccupation première. Parce que là aussi, dans toutes ces petites choses, dans tout ce que le Seigneur met devant moi à faire, dans toutes les situations, les relations, eh bien, le règne de Dieu peut être la préoccupation première. Quels que soient les soucis, même s'ils sont triviaux, s'ils sont complètement matériels, des problèmes d'organisation, des problèmes de budget, des problèmes de relations, quels qu'ils soient, quelle que soit la chose que nous avons à porter et à gérer, eh bien le royaume de Dieu peut être la préoccupation et peut être le centre de ce que je suis en train de faire. Quand je pense à ce que c'est que les soucis, finalement, pour moi, une bonne définition, ce serait quelque chose que je porte et où Dieu n'est pas présent. Quelque chose où j'ai mis Dieu de côté pour le porter tout seul. C'est ça un souci. Quelque chose que je porte sans Dieu. Alors que Dieu veut être avec moi à ce moment-là, à cet endroit-là, il veut porter avec moi et il veut aussi me décharger de ce que je dois pas porter. À la fin de ce psaume, on voit la restauration de Dieu dans la vie de David. Et il dit, pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La confiance dans l'amour de Dieu, évidemment, c'est ça qui permet de lâcher, qui permet de dire, ben voilà, ce à quoi je tiens, je vais te le remettre parce que moi, je peux pas le porter, et je le fais parce que je sais que toi, tu vas en prendre soin. Je peux vous partager une des décisions qu'on a prises, par exemple, dans notre famille. C'est pas un modèle que je donne, mais bon, c'est voilà quelque chose que à un moment donné, donc Nathan, notre aîné, a décidé que, enfin, a décidé. On est rentré en conflit avec lui pour que chaque dimanche matin, il vienne à l'église. Donc on s'est battu, on a menacé, on a cajolé, bon, tout ce que les parents font pour essayer de convaincre leurs enfants. Et à un moment donné, le conflit est devenu si fort que... et là, pour le coup, c'est vrai, c'était un souci, c'était quelque chose qui nous pesait. Et ben on a décidé de lâcher et de remettre à Dieu. On s'est dit voilà, nous on peut porter un témoignage, on peut porter la transmission de notre foi du mieux qu'on peut, partager la parole, partager des moments de prière, mais on peut pas décider à la place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas porter et qu'on doit laisser. Et c'était pas forcément facile à faire. Une fois de plus, c'était la décision qu'on a prise dans notre famille. C'est pas. Et on a pu le faire aussi parce que, on a pu dire que nous avons confiance dans la bonté de l'Éternel et le soin qu'il va prendre de notre fils et de son chemin avec Dieu. Donc voilà, on a pris cette décision là et on a lâché quelque chose. Et cette démarche de confiance dans la bonté de Dieu, alors bien sûr ça vient d'une expérience, d'une relation avec Dieu qui s'est construite au fil des années, mais c'est aussi, j'ai envie de dire que c'est aussi un choix. C'est aussi un choix à un moment donné de décider de s'attacher à ce que Dieu nous a appris et montré. C'est une décision à prendre. C'est une décision et en même temps c'est aussi un don que Dieu nous fait. De la même façon que la foi est un don que Dieu nous fait de justement pouvoir lâcher prise. Et ce don s'accompagne de ce texte nous parle de la joie. Le texte de Philippiens nous parle de la paix, une paix qui surpasse notre intelligence. Et quand j'ai dit que vaincre les soucis, c'est d'arriver à faire rentrer Dieu dans chacune de ces dimensions de notre vie, bien, je pense que effectivement, cette paix et cette joie, c'est exactement ça. C'est la présence de Dieu dans notre vie. C'est l'assurance que nous sommes qui nous devons être, que nous sommes à la place où nous devons être, que nous sommes sur le bon chemin. Une fois de plus, le choix est difficile. Le discernement est difficile. Dans cette marche avec Dieu, il n'y a rien qui est facile, et ça fait intervenir tout ce que nous sommes, nos sentiments, notre intelligence, notre volonté. Tout ça est partie prenante dans cette relation avec Dieu. Mais au bout du compte, l'important, c'est d'être sur le bon chemin. Et nous savons qui est le bon chemin, et je reviendrai là-dessus juste pour conclure. David, lui, termine son psaume en disant « Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. » Dans Philippiens, Paul nous encourage à exprimer nos prières avec reconnaissance. Et c'est vrai que face aux soucis, aux chagrins, à tous ces sentiments qui nous oppriment, la reconnaissance est, moi je dirais, un antidote à toutes ces mauvaises pensées. C'est le chemin qui nous permet de reconnaître avec humilité tout ce que le Seigneur nous a donné. C'est le chemin qui nous permet d'ouvrir les yeux, d'éclairer notre vie d'une façon différente, d'une façon qui nous permette de voir effectivement la main de Dieu là où nous sommes. Simon, nous partageait la semaine dernière le psaume 139 où il y a cette parole merveilleuse qui nous dit où le psalmiste reconnaît que le Seigneur a fait de lui une créature merveilleuse. Une créature merveilleuse. Souvent, quand on se regarde, on n'a pas du tout l'impression d'être merveilleux. Mais aux yeux de Dieu, c'est ce que nous sommes, une créature merveilleuse. Et la reconnaissance de cette création, la reconnaissance de cette recréation où Dieu nous a transformés pour être son enfant, eh bien, cette reconnaissance nous permet de nous enraciner, finalement, dans la joie et dans la paix que Dieu nous donne. Et pour terminer, je veux vous encourager avec la fin de ce passage dans Éphésiens où Paul nous parle de cette paix qui surpasse notre intelligence. Et cette paix nous garde en Jésus-Christ. Nous garde en Jésus-Christ. Et l'enjeu, c'est vrai. L'enjeu dans la façon dont nous gérons nos soucis, nos difficultés, nos épreuves, l'enjeu, c'est la présence de Dieu. L'enjeu, c'est de savoir c'est la présence de Christ dans nos vies qui nous permet de prendre les bonnes décisions aussi. C'est la présence de Christ qui conduit nos choix, qui conduit nos réflexions. Alors, moi, c'est ce que ce passage m'a encouragé à faire, à ce que la présence de Christ, ce qu'il est, sa façon de se comporter, sa façon de réagir, sa façon de décider, sa façon d'être en relation avec ceux qui sont autour de lui, et bien que c'est cette présence-là finalement qui est ce que je dois rechercher à chaque moment. Je vous remercie.